VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia avec vous en direct de Washington. Au sommaire, violence à Goma, dans l'est de la RDC. 5 personnes ont trouvé la mort lors d'affrontements entre la police et des manifestants. François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, arrêté hier en France, a été libéré mais reste sous contrôle judiciaire. Les États-Unis s'engagent à contribuer à hauteur de 60 millions de dollars à la force du G5 Sahel. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, réélu avec 98% des voix pour un nouveau mandat de 5 ans. Et puis l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, inculpé pour complot contre les États-Unis. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. La situation était tendue ce lundi à Goma. Des affrontements ont opposé les forces de sécurité à des manifestants pendant plus de 4 heures. Toutes les activités étaient paralysées jusqu'à la mi-journée. Et on dénombre 5 morts, dont un policier. Le point avec Charlie Kasereka à Goma.
Ces violences dans la capitale du Nord Kivu entre policiers et population font suite à l'appel de la journée ville morte de la coalition des associations de la société civile locale. Ce collectif attend ainsi demander l'organisation des élections à la fin de cette année 2017. Un groupe de manifestants a saccagé un sous-commissariat de la police au quartier Katoyi et incendié un autre au quartier Majengo situé toujours vers le nord de la ville de Gomaton ce matin. Le bilan provisoire est d'au moins 5 morts dont un policier, plusieurs arrestations et des blessés. Toute la matinée, pendant plus de 4 heures de temps, la police soutenue par l'armée était confrontée aux manifestants qui ont barricadé des routes principales dans les quartiers Majengo. Les activités sont restées paralysées dans cette partie de la ville de Goma. Le chef de la police du Nord Kivu, le général Placide Nyembo, parle d'un groupe de manifestants avec armes qui ont attaqué les sous-commissariats et ont réussi à ravir 2 armes aux policiers commis à la garde, des armes qui ont été récupérées par la suite. La situation est devenue calme dans l'après-midi sur toute l'étendue de la ville. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Arrêté hier à Paris, François Compaoré, frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, a été libéré en attendant l'examen d'une demande d'extradition du Burkina Faso. On fait le point avec Solange Nyamoulissa.
François Compaoré, 63 ans, a été arrêté dimanche à l'aéroport de Roissy à son retour d'Abidjan en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par le Burkina Faso. Son avocat, Maître Pierre-Olivier Sûr, a précisé qu'il a été laissé libre sous contrôle judiciaire mais doit prévenir en cas de voyage à l'étranger. Selon lui, le Burkina doit encore faire valoir en bonne et due forme une demande d'extradition. François Compaoré est réclamé par la justice burkinabé dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons le 13 décembre 1998. Il est poursuivi pour incitation à assassinat, selon Maître Stanislas Benewende Sankara, un avocat de la famille Zongo. Au moment de son assassinat, Norbert Zongo menait une enquête sur la mort du chauffeur de François Compaoré, alors conseiller économique de son frère. Il était surnommé à l'époque le petit président.
Et nous y reviendrons également dans la partie magazine. Les États-Unis vont contribuer à hauteur de 60 millions de dollars à la force conjointe anti-djihadiste au Sahel. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson dans un communiqué. La France dirige ce lundi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter de consolider l'aide au G5 Sahel, une organisation regroupant 5 pays de cette région ciblés par différents groupes armés. Au moins 5 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. L'explosion a eu lieu à l'aube au nord de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. Un kamikaze déguisé est rentré dans la mosquée à l'heure de la prière du matin. Il a déclenché sa ceinture explosive, tuant 5 personnes et en blessant de nombreuses autres. Sans surprise, le président sortant kenyan, Uhuru Kenyatta, a remporté la présidentielle du 26 octobre. Il a obtenu 98,26% des voix à l'issue d'une élection boycottée par l'opposition. Nathalie Barge.
Le président de la commission électorale, Wafula Tshebukati, a annoncé que Uhuru Kenyatta a recueilli plus de 7 millions de voix contre un peu plus de 73 000 voix à Raila Odinga. La participation s'élève à 38,8%, en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août qui s'élevait à 79% et qui a été annulé par la Cour suprême. La commission a annoncé les résultats sur la base des 266 circonscriptions où le vote a pu avoir lieu jeudi dernier. Elle a considéré que le résultat global sur l'ensemble du pays ne pouvait être remis en cause. Le scrutin n'a pas été possible dans 4 comtés en raison de troubles dans ces bastions de l'opposition. La commission a tenté d'organiser à nouveau le scrutin samedi, mais a renoncé in extremis, estimant que la sécurité de son personnel n'était pas garantie.
Ouverture du procès d'un proche de l'ancien dictateur marxiste éthiopien Mengistu Haile Mariam aux Pays-Bas. Eshetu Alemu, 63 ans, a rejeté toutes les accusations à l'ouverture de son procès aux Pays-Bas pour des crimes commis en Éthiopie pendant les années 70. Un total de 321 victimes présumées ont été identifiées. Parmi elles, 75 prisonniers dont l'exécution aurait été ordonnée par le suspect en août 78 dans une église de la province du Nord-Ouest éthiopien. Les corps avaient ensuite été jetés dans une fosse commune, mais l'affaire Moore rejetait toutes ces accusations.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Paul Manafort, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, est visé par 12 chefs d'inculpation, dont complot contre les États-Unis, blanchiment et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger. Le point avec Clermont Gibourg.
Paul Manafort s'est présenté ce matin au bureau du FBI et pourrait être aussitôt présenté à la justice. L'acte d'inculpation de 31 pages ne fait aucune référence à la campagne de Donald Trump ou à une quelconque collusion entre son équipe et les autorités russes. Paul Manafort et son associé Richard Gates sont accusés d'activités non déclarées de lobbyistes et consultants en faveur de l'ancien président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych. Plus de 75 millions de dollars ont transité par des comptes offshore gérés par les deux hommes. Le président Donald Trump a tweeté qu'il n'existait aucune collusion entre son équipe et la Russie. En revanche, il n'a pas dit mot concernant un ancien membre de son équipe, George Papadopoulos, qui a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs du FBI.
Le procureur général de l'État espagnol a requis des poursuites contre les membres du gouvernement catalan destitués pour rébellion. Ils sont accusés d'avoir provoqué la crise institutionnelle ayant mené à une déclaration d'indépendance. Dans sa plainte, il demande que ses leaders soient convoqués de manière urgente et qu'ils soient arrêtés s'ils ne se présentent pas. Le parquet a également requis des poursuites contre des proches du président du Parlement catalan qui ont facilité le vote de la déclaration d'indépendance vendredi au Parlement catalan. Un convoi de l'ONU et du Croissant Rouge syrien transportant de l'aide pour 40 000 personnes est entré dans la région du Ghouta oriental, une zone rebelle assiégée près de Damas. Selon le porte-parole de l'ONU, ce convoi est constitué de 49 camions. Il arrive au moment où la situation humanitaire dans ce secteur a empiré, selon des médecins locaux, avec des cas de malnutrition sévère, notamment parmi les enfants. Le chef de la diplomatie de Bahreïn propose la suspension de l'adhésion du Qatar au Conseil de coopération du Golfe jusqu'à ce que cet émirat accepte les demandes de ses adversaires arabes. Fondé en 1981, le Conseil de coopération du Golfe comprend l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Mais son fonctionnement est fortement affecté par la crise qui a éclaté en juin entre le Qatar et certains de ses voisins qui l'accusent de terrorisme. Les États-Unis saluent la décision du président du Kurdistan irakien de quitter ses fonctions après son pari raté d'obtenir l'indépendance. Massoud Barzani, le père de l'autonomie de la région, a annoncé hier son départ de la présidence. Le référendum d'indépendance du 25 septembre a déclenché une crise sans précédent, aboutissant à la perte de presque tous les territoires que les Kurdes disputent au pouvoir central irakien. L'armée israélienne a indiqué avoir fait explosé, un tunnel entre le sud de la bande de Gaza, contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, et le territoire israélien. Le porte-parole de l'armée israélienne estime qu'il s'agit d'une riposte à une violation inacceptable de la souveraineté israélienne. Et puis l'épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou est accusée par une de ses employées de mauvais traitement. La plaignante réclame 54 000 euros de dommages à Madame Netanyahou. Elle a aussi déposé une plainte auprès de la police pour des menaces et des intimidations depuis le lancement de la procédure. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le ralentissement généralisé en Afrique subsaharienne s'atténue avec une croissance de 3,5% prévue pour l'an prochain contre 2,6% cette année. Mais la situation reste fondamentalement difficile, note le Fonds monétaire international dans un rapport publié ce lundi. Le FMI met en garde contre l'augmentation de la dette publique et les incertitudes politiques susceptibles d'affecter les perspectives économiques. Pour le FMI, l'accélération tient à des facteurs ponctuels, notamment une reprise de la production pétrolière au Nigeria et l'atténuation de la sécheresse en Afrique orientale et australe. Le FMI appelle les pays africains à mettre en œuvre les assainissements budgétaires et réformes prévues pour s'attaquer aux obstacles à la croissance. La centrale thermique d'Azito, une unité privée qui génère 30% de l'électricité en Côte d'Ivoire, a renforcé sa sécurité 5 ans après une attaque qui a endommagé ce site stratégique du pays, leader régional dans la production de courant. Propriété du Britannique Globelec, la centrale Azito a également annoncé la construction d'ici à 2020 d'une nouvelle unité de cycle combiné, turbine à gaz et vapeur, sur le même site d'une capacité de 280 MW, détentrice d'un monopole de distribution. La compagnie ivoirienne d'électricité, privatisée en 1990 et propriété du groupe franco-africain Eranov, fournit le courant à 1,3 million d'abonnés ivoiriens et exporte vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina et le Mali.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdelrahman, bonsoir à tous.
Veillée d'armes en Ligue des Champions en Europe.
Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore Manchester United peuvent valider dès demain soir leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tout comme le Bayern, le FC Bâle ou encore la Juventus Turin. Les choses sont plus serrées pour Chelsea qui va se déplacer sur le terrain de l'AS Rome, alors que l'Atlético Madrid joue sa survie à domicile contre Karabakh. Dans le groupe A, Manchester United reçoit Benfica, le FC Bâle joue contre le CSKA Moscou. Dans le groupe B, la réception des Belges d'Anderlecht au Parc des Princes ressemble à une formalité pour le Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich en déplacement à Glasgow chez le Celtics. Dans le groupe C, l'Atlético Madrid finaliste en 2016 et demi-finaliste l'an passé s'est considérablement compliqué la tâche et devra absolument l'emporter contre Karabakh. Le choc de la soirée, ce sera l'AS Rome contre Chelsea. Enfin, dans le groupe D, le FC Barcelone se déplace chez l'Olympiakos du Pirée, le Barça qui est tout simplement invaincu en Europe cette saison et qui n'a plus perdu depuis la défaite originale en Supercoupe contre le Real Madrid. La Juventus peut également se qualifier en cas de victoire à Lisbonne sur la pelouse du Sporting Portugal.
En basket, Kaba jouera pour le Sili National.
Et oui, l'intérieur de Villeurbanne, Alpha Kaba, 2m08, 21 ans, a renoncé à faire partie de l'équipe de France de basket pour se consacrer à la sélection guinéenne.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Cavaliers de Cleveland ont définitivement du mal à lancer leur saison. Ils ont concédé leur 4e défaite en 7 matchs. Après une défaite à domicile face aux Knicks de New York 95-114, les Knicks qui ne les avaient plus battus depuis 3 ans. Golden State a également du mal à trouver le rythme. Une 2e défaite de la saison à domicile face à Détroit, 105-117. Quant à l'autre prétendant au titre, San Antonio, une nouvelle défaite cette fois-ci sur le parquet d'Indiana, 94-97. Atlanta est également dans la tournante. Les Hawks se sont inclinés 106-117 à domicile face à Milwaukee.
C'est Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. François Compaoré, frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, a été laissé libre en France en attente de l'examen d'une demande d'extradition du Burkina Faso. Il avait été arrêté hier à l'aéroport de Roissy à son retour d'Abidjan en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par la justice burkinabé. Yacoubaoui Traogo a joint Maître Prosper Farama, un des avocats de la famille Zongo.
Une procédure d'extradition suit deux étapes. Première étape, la délivrance d'un mandat d'arrêt international et les mesures coercitives. Le mandat d'arrêt a été délivré et il y a un doute concernant la date qui nous est délivrée par le...
Voilà, on écoute plutôt Prosper Farama d'abord.
Il a été juste mis en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire, ce qui signifie qu'il ne peut pas quitter en principe le territoire français jusqu'à l'issue de la procédure de demande d'extradition.
Et où est-ce que le Burkina en est avec la procédure de demande d'extradition?
J'ai tout à l'heure justement écouté le procureur général qui expliquait qu'ils étaient sur le point d'acheminer donc la demande d'extradition aux autorités judiciaires françaises. Eu regard au fait que le mandat d'arrêt international avait été lancé sans qu'on ne sache exactement où François Compaoré serait arrêté.
Est-ce que justement à l'issue de cette demande d'extradition, si elle est reçue du côté de Paris, on peut espérer que François Compaoré soit extradé au Burkina Faso?
C'est tout notre espoir en tant qu'avocat de la partie civile, parce que pour nous ce serait une très grosse déception vis-à-vis des autorités françaises que François Compaoré ne soit pas extradé vers le Burkina.
L'autre fait aussi c'est que François Compaoré est désormais ivoirien également, avec la naturalisation intervenue entre-temps. Est-ce que cela a une conséquence donnée sur la procédure?
Pour nous absolument non. Le fait de prendre une nationalité, excusez-moi l'expression, factice et circonstanciée justement pour échapper à la justice ne peut jamais, à notre avis, en droit international pénal, constituer un frein à ce que justice soit rendue.
C'était Maître Prosper Farama, joint à Ouagadougou. On écoute à présent l'avocat de François Compaoré, Maître Pierre-Olivier Sûr.
Une procédure d'extradition suit deux étapes. Première étape, la délivrance d'un mandat d'arrêt international et les mesures coercitives. Le mandat d'arrêt a été délivré et il y a un doute concernant la date qui nous est délivrée par le Burkina Faso. Ils disent que c'est le printemps, au mois de mai je crois. Moi, j'ai interrogé le parquet général à Paris le 27 septembre qui m'a dit il n'y a rien. Donc je me pose la question de savoir si la date n'a pas été rajoutée après coup. En tout cas, il n'y a pas de mesures coercitives. La Cour d'appel a considéré que François Compaoré devait rester en liberté. La deuxième partie de la procédure, c'est la demande d'extradition proprement dite, qui devra arriver en France dans les 20 jours à partir d'aujourd'hui et qui nous permettra de réagir et de poser deux questions. Première question, est-ce qu'en France, une telle procédure pourrait avoir lieu alors que les faits datent de 1998, la mort de Zongo? Est-ce que ce n'est pas prescrit? La réponse est oui, c'est prescrit. Donc, on ne peut pas engager une procédure d'extradition dans ces conditions-là. Et puis la deuxième question qui sera posée, c'est de savoir si, par hasard, ce ne serait pas une procédure purement politique qui viserait à rattraper une procédure qui n'a pas pu être effectuée contre Blaise Compaoré, le président. Donc si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est la fable de La Fontaine et on est exactement là. Mais évidemment, la France ne va pas tomber dans ce piège politique.
C'était Maître Pierre-Olivier Sûr, l'avocat de François Compaoré, joint à Paris par Jacques Aristide.
Anastasie Tudiech avec vous. Ce soir, dans À votre avis, François Compaoré, le frère du président déchu burkinabé Blaise Compaoré, a été arrêté dimanche à son arrivée à l'aéroport parisien de Roissy et libéré ce lundi matin. Mais il reste à la disposition de la justice dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Que pensez-vous de l'arrestation de François Compaoré? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À votre avis, c'est ce soir à 18h sur VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire veut tirer le maximum de profit de l'AGOA, ce dispositif qui exonère de droits de douane de nombreux produits africains exportés vers les États-Unis. Et c'est dans cette optique que le gouvernement ivoirien vient de se doter d'une stratégie. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, a été adoptée le 18 mai 2000 par le Congrès américain et confère des préférences commerciales à 38 pays africains subsahariens dont la Côte d'Ivoire. Près de 7000 produits exportés vers les États-Unis sont ainsi exonérés de droits de douane. La Côte d'Ivoire entend donc booster ses exportations à travers la mise sur pied d'une nouvelle stratégie. Souleymane Diarra Souba, ministre ivoirien du Commerce.
Mais l'avantage d'une stratégie, c'est qu'on sait désormais où on va. C'est qu'on se donne également des objectifs qui sont quantifiés. On est à environ à 1,1 milliard de dollars aujourd'hui. En 2025, on veut être à 3,5 milliards de dollars. Et comment y arriver? On s'est donné les moyens pour pouvoir y arriver. Il fallait des moyens financiers, des moyens en termes d'assistance technique, de renforcement des capacités et avec un organe qui va s'occuper de la mise en œuvre et du suivi de cette matrice d'action.
Ali Keïta est le directeur général de Carité Afrique. L'AGOA, dit-il, est une grande opportunité pour les exportateurs du continent.
Carité Afrique est un petit produit de l'AGOA. J'ai été appuyé depuis 2015 par l'AGOA sur l'exportation de nombreux produits sur les États-Unis. Donc c'est une fierté pour nous que l'AGOA est relancée jusqu'en 2025. Ça nous permettra aussi d'entraîner pas mal d'entreprises dans l'exportation. Parce que le gros problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, particulièrement en Afrique, c'est le volet financement. C'est une chance que nous devrons saisir. Parce que AGOA a prévu le financement des petits producteurs.
La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire espère pour sa part que la Côte d'Ivoire saura tirer le maximum de profit de cette opportunité. Catherine Brooker.
C'est une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire d'augmenter les exports vers les États-Unis, surtout dans 6 secteurs ciblés. Et j'espère que la Côte d'Ivoire puisse profiter des atouts de l'AGOA d'ici 2025.
Sur les ambitions de la Côte d'Ivoire, on écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Grâce à cet avantage préférentiel, les États-Unis d'Amérique sont l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Le pays est le deuxième client et le cinquième fournisseur de la Côte d'Ivoire. Et l'ambition du gouvernement est d'accroître les exportations de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis et de passer d'environ 1 milliard de dollars US en 2016 à environ 3,5 milliards de dollars US à l'horizon 2025.
L'AGOA prend fin en 2025 et ne devrait pas être reconduit selon le gouvernement américain. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Elle est franco-ivoiro-malienne, elle c'est Eva Doumbia, et elle se définit comme une metteur en scène afro-payenne. Son œuvre est centrée sur la place des Noirs dans la société française. Et l'année dernière, Eva Doumbia a fondé avec la poétesse et dramaturge guadeloupéenne Gertie Dambouri le collectif Décoloniser les Arts, un portrait réalisé à Paris par Luc Pied-Noir, le récit de Dilidico.
Ils ont envoyé des gens à être gazés, des types.
À la Colonie, un lieu en vogue dédié à l'art à Paris, texte, musique et danse se mélangent et nous proposent Communauté. Une performance mise en scène par la franco-ivoiro-malienne Eva Doumbia sur les clivages ethniques dans la société française, un problème qui soulève encore de nombreuses questions en 2017.
C'est un texte de Léonora Miano, ça parle des raisons qui font que des gens se regroupent en fonction d'origine, parfois de couleur de peau, de religion. Donc là, on parle précisément de la communauté noire française et des raisons qui font qu'elle est nécessaire pour l'équilibre de la plupart des personnes. En fait.
Artiste profondément engagé sur la question de la place de la population noire dans la société, Eva Doumbia n'a de cesse d'interroger et de dénoncer au fil de ses œuvres des rapports raciaux découlant, selon elle, d'une histoire française esclavagiste et coloniale. À partir de sa position de femme, perçue avant tout comme noire, dans cette société française, la metteur en scène, née en banlieue du Havre, d'une mère normande et d'un père malinké, puise son inspiration dans le récit de sa propre vie et celle de son entourage. Écoutons la danseuse et chorégraphe Katie Noël.
C'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un de grand professionnalisme, donc on arrive toujours à sortir des choses avec elle. Elle est tranquille en tout cas. En tout cas moins speed que moi dans mon travail.
Avec cette performance, Eva Doumbia se positionne comme la messagère d'une population en quête d'égalité et de reconnaissance. Rythmé par une musique parfois entraînante, parfois mélancolique, l'artiste ne cherche pas à nous offrir une réponse, mais nous propose les clés pour mieux comprendre ces communautés aux multiples visages.
Il y a plusieurs messages, parce que chaque phrase, en fait, elle dit quelque chose. Donc chaque partie, elle dit quelque chose. Ça parle des raisons du communautarisme en France, qu'est-ce que ça signifie d'être noir en France. Donc pourquoi est-ce que on a besoin de se réunir par moment, avoir des espaces de discussion entre nous. Mais ça dissèque aussi cette communauté avec ses qualités et ses défauts.
Eva Doumbia en est persuadée. C'est en multipliant ce genre de projets artistiques, aujourd'hui trop peu nombreux, que les mentalités changeront. Et qu'un jour, peut-être, la communauté noire trouvera enfin sa place au sein de la société française.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Catalogne, le parti indépendantiste a annoncé qu'il participerait aux élections régionales convoquées le 21 décembre par le gouvernement espagnol. Madrid a placé la Catalogne sous sa tutelle. La situation reste donc très tendue sur place. Eki Abadou a joint notre confrère Jean-Baptiste Naudet du Nouvel Observateur à Barcelone.
Les gens se regardent un peu en chien de faïence. Il y a ceux qui sont pour l'indépendance et ceux qui sont contre. Et puis il y a des gens au milieu qui ne savent pas trop. Ceux qui sont pour l'indépendance disent qu'ils sont majoritaires. Ceux qui sont pour rester avec l'Espagne, qu'on appelle les unionistes, disent que c'est eux qui sont majoritaires. Donc en fait, on ne sait pas. Pour l'instant, la situation est assez calme. Elle évolue très très vite. C'est quand même une très forte tension dans l'air.
Finalement, la Catalogne voulait se faire entendre et avoir plus d'indépendance. Est-ce que vous pensez qu'on part vers cette voie?
Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'essayent de faire les leaders indépendantistes catalans, c'est-à-dire se faire connaître, internationaliser leur cause. Au moment où je vous parle, j'ai appris que le président de la Catalogne, qui a été destitué par Barcelone, qui a été inculpé et qui était menacé d'arrestation pour rébellion, a fui à Bruxelles, sans doute pour ne pas être arrêté. Il essaye de rencontrer des leaders européens pour leur expliquer que le problème de la Catalogne, c'est pas seulement un problème de la Catalogne, c'est pas seulement un problème espagnol, c'est un problème européen. Il essaye de les impliquer dans le conflit.
Est-ce que vous pensez qu'on peut être optimiste en concernant l'entente entre Madrid et Barcelone? Quelle évolution entre les rapports?
C'est très difficile parce que pour l'instant, pratiquement toutes les tentatives de dialogue, il n'y a jamais eu de dialogue officiel. D'ailleurs, il y a eu des dialogues un peu secrets, quoi, des petites négociations comme ça, mais il faudrait un médiateur notamment. Les Espagnols à Madrid ne veulent pas de médiateur parce qu'ils estiment que c'est un problème interne, mais interne espagnol. Les Catalans veulent une médiation internationale et Madrid refuse parce qu'ils ne veulent pas que ce soit un problème international. Pour eux, c'est un problème intérieur. Donc la situation, c'est complètement bloqué, quoi. Ça fait 30 ans que je couvre tous les séparatismes en Europe, de la Slovénie jusqu'à la Tchétchénie en passant par le Kosovo. Je suis assez inquiet parce que ce que j'entends ici ou ce que j'entends à Madrid, c'est ce que j'ai entendu avant que les choses dégénèrent. Et je pense qu'il est urgent pour les leaders du monde entier d'intervenir et d'essayer de faire comprendre aux deux parties qu'il faut qu'elles discutent et qu'elles résoudent le conflit par la négociation et par des élections parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Journaliste et grand reporter Jean-Baptiste Naudet du Nouvel Observateur à Barcelone. Voilà ce qui met fin à cette édition réalisée par Michel Joseph. La console, il y avait Régis Audrius, présentation Abdulrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. L'actualité continue dans quelques secondes avec un point sur l'actualité avec Eric Manerakiza. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.